à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 12 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au moins 71 morts dans l'attaque d'Inates au Niger. Mamadou Issoufou a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité. Élection présidentielle en Algérie marquée par une nouvelle manifestation à Alger et des troubles en Kabylie. Les députés israéliens ont dissous le Parlement et convoqué un nouveau scrutin le 2 mars, le troisième en un an. Élections législatives anticipées en Grande-Bretagne qui détermineront le futur du Brexit. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Niger, au moins 71 soldats ont été tués, 12 blessés et d'autres sont portés disparus dans l'attaque hier d'un camp de l'armée à Inates, dans l'ouest du pays. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Des centaines d'assaillants ont mené un assaut de plusieurs heures contre le camp d'Inates. Le porte-parole de l'armée est revenu sur les détails de l'attaque, colonel Boubacar Hassan.
Le détachement du poste militaire de reconnaissance d'Inates, proche de la frontière avec le Mali, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des terroristes lourdement armés, estimés à plusieurs centaines. Un combat d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes par l'ennemi sur la position. Ça n'est suivi de 15h à 18h locales.
C'est l'attaque la plus meurtrière jamais subie par l'armée nigérienne. Le 1er juillet, cette même base d'Inates a été la cible d'une attaque revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. 18 soldats ont été tués. À Niamey, des citoyens s'interrogent.
C'est comme si on avait anéanti complètement toute une compagnie de notre armée. C'est quand même quelque chose de très grave.
Le président Emmanuel Macron a annoncé le report à janvier du sommet avec les leaders du G5 Sahel qui était programmé le 16 décembre à Pau.
Élection présidentielle en Algérie, un scrutin sous tension marqué par une nouvelle manifestation de masse à Alger et des troubles en Kabylie. Ekiabadou nous en dit plus.
Cet après-midi, des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées dans le centre d'Alger pour dénoncer l'élection en cours qu'ils voient comme une manœuvre de survie du régime. La police anti-émeute déployée en force au cœur de la capitale est intervenue pour tenter d'empêcher tout rassemblement. Les manifestants sont tout de même parvenus à briser un cordon de police pour accéder au carrefour de la Grande Poste, lieu symbolique du mouvement de contestation inédit qui secoue l'Algérie depuis février. La plupart des observateurs s'attendent à une forte abstention. Le mouvement Irak a appelé au boycott alors que le pouvoir répète depuis plusieurs semaines que la participation sera massive. Le taux de participation à la présidentielle est l'enjeu majeur de ce scrutin. Il était de 20,43% à 14h GMT, selon Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections.
20 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés en 3 jours dans l'est de la RDC, ont indiqué les autorités sanitaires. Cette nette hausse a été répertoriée entre lundi et mercredi aux confins des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule journée de mercredi à Mabalako. 6 autres ont été notifiés mardi, dont 3 tradipraticiens, selon le comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie. La Cour de justice de la CEDEAO à Abuja a ordonné à la Sierra Leone de lever immédiatement l'interdiction faite aux élèves enceintes d'aller à l'école en vigueur depuis 2015. L'an dernier, des groupes de la société civile ont contesté cette interdiction au plan régional après l'échec de recours à l'échelle nationale. Les États-Unis ont annoncé priver de visa ceux qui font obstacle à la paix au Soudan du Sud dans le cadre d'un réexamen des relations pour faire pression sur les belligérants, a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le département d'État n'a pas rendu public les noms des personnes visées. Le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar ont échoué à former un gouvernement d'union à la date butoir du 12 novembre. Par ailleurs, après la sécheresse au Soudan du Sud, les inondations pourraient provoquer une famine dans plusieurs régions, alerte le Programme alimentaire mondial. Près d'un million de personnes subissent les effets des inondations qui ont submergé des villes entières. Plus de 5 millions de personnes pourraient souffrir de la famine début 2020, a indiqué le PAM. Et la Gambie a dénoncé devant la Cour internationale de justice le silence d'Aung San Suu Kyi sur le sort des Rohingyas au lendemain du rejet de la dirigeante birmane d'accusation de génocide. La Gambie, soutenue par les 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz repartent aujourd'hui pour une troisième campagne électorale en moins d'un an. Le nouveau scrutin est supposé mettre fin à l'une des pires impasses politiques de l'État hébreu. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Les Israéliens se sont réveillés ce matin au premier jour d'un nouveau cycle électoral après celle d'avril et septembre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après la date butoir pour donner au pays un chef de gouvernement, les députés ont officiellement voté la dissolution de la Knesset, le Parlement, et les modalités d'un scrutin convoqué le 2 mars prochain. Benjamin Netanyahou, le plus pérenne des premiers ministres israéliens avec 13 ans au compteur du pouvoir, a été inculpé il y a 3 semaines pour corruption, abus de confiance et malversation dans 3 affaires différentes, devenant ainsi le premier chef de gouvernement en fonction de l'histoire d'Israël à être mis en examen. Pour obtenir une immunité par un vote du Parlement, il devra remporter les élections. Mais Netanyahou a dénoncé une croisade contre lui, ou plus exactement, un coup d'État ordonné par la justice. Face à lui, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz joue la carte de la probité. Le professeur Gideon Raha, de sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem, estime que la question principale de la campagne sera encore « Êtes-vous pour ou contre Netanyahou ?»
Élections législatives anticipées en Grande-Bretagne. Il s'agit de choisir entre le Brexit du Premier ministre Boris Johnson et un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne promis par le travailliste Jeremy Corbyn. Le point avec Abdourahmane Dia.
Boris Johnson a voté en début de matinée à Westminster. Jeremy Corbyn, lui, un peu plus tard, à Islington, dans le nord de Londres. C'est pour sortir de l'impasse que le Premier ministre conservateur avait appelé à des législatives, les troisièmes en 4 ans. Il espère obtenir la majorité absolue, soit environ 320 sièges, qui lui avaient fait défaut pour adopter l'accord de divorce qu'il a négocié avec Bruxelles. Il promet de réaliser le Brexit fixé au 31 janvier, une échéance repoussée 3 fois. Les conservateurs sont donnés favoris dans les sondages, mais l'issue du scrutin reste incertaine. Le Premier ministre Boris Johnson a affirmé pouvoir boucler un accord commercial avec l'Union européenne moins d'un an après le Brexit, un délai jugé irréaliste à Bruxelles. Les résultats sont attendus au plus tard demain vendredi.
Aux États-Unis, le comité judiciaire de la Chambre des représentants, contrôlé par les démocrates, débat des articles de mise en accusation contre le président Donald Trump et de les envoyer à la Chambre pour un vote la semaine prochaine. Les législateurs démocrates estiment que M. Trump a abusé de son pouvoir et a entravé le Congrès en refusant de remettre des documents aux enquêteurs. Les républicains estiment que l'affaire est viciée. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. La mobilisation en France contre la réforme des retraites qui paralyse les transports est entrée dans sa 2e semaine et pourrait se prolonger jusqu'à Noël, malgré de nouveaux appels au dialogue du gouvernement. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a réitéré sa détermination à instaurer un système universel de retraite, mais avec quelques concessions aux syndicats. Ce jeudi, la zone industrielle et portuaire du Havre était bloquée par des manifestants, tout comme celle du grand port maritime de Marseille. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique. On en parle avec Nani Talani.
Les pluies abondantes qui se sont abattues dans la région de l'extrême nord du Cameroun au cours du mois d'octobre dernier ont détruit plus de 11 000 tonnes de céréales dans le Mayo Dané. Des éléphants ont aussi détruit des tonnes de sorgho et de maïs dans cette partie du pays. Ces pertes représentent 12% de la production céréalière du département. Par ailleurs, en octobre toujours, le pipeline Tchad-Cameroun a généré des recettes de 30 milliards de francs CFA au titre du droit de transit, soit une hausse de 23% en glissement annuel. L'Angola a ouvert une procédure pénale contre l'ancienne ministre des Pêches, Victoria de Barros Neto, pour son implication présumée dans un scandale de corruption avec Samergy, la plus grande entreprise de pêche d'Islande. Ses avoirs ont été gelés. Deux anciens ministres namibiens et deux anciens employés d'Investec en Afrique du Sud sont aussi accusés d'avoir conspiré avec Samergy pour recevoir des paiements équivalents à des millions de dollars en échange de quotas de pêche. Ils sont en attente de leur jugement en Namibie. Pour terminer, au Ghana, la société Springfield E&P annonce avoir découvert 1,5 milliard de barils de pétrole offshore et 0,7 milliard de pieds cubes de gaz au large de la côte atlantique. Cette découverte est importante dans un pays qui produit actuellement environ 200 000 barils de pétrole par jour. Selon Springfield, le potentiel non découvert du bloc est estimé à plus de 3 000 barils de pétrole et de gaz. Springfield est une société à 100% ghanéenne.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le FC Nouadhibou a limogé son coach.
Oui, le club mauritanien s'est séparé de son entraîneur espagnol Santiago Martinez Mares. Ce dernier peint ainsi les débuts compliqués du FC Nouadhibou en Coupe CAF, notamment la lourde défaite 0-6 contre Pyramide FC d'Égypte le week-end écoulé. Initialement entraîneur du club puis promu manager général, le Camerounais Mouril Ndjoya va assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Nouadhibou vit des débuts compliqués pour sa première participation à la Coupe de la Confédération avec deux défaites en deux matchs.
Encore de la violence dans un stade au Maroc.
Les incidents se sont déroulés à Kourikba, au centre du pays, après le coup de sifflet final du match comptant pour la sixième journée du championnat, où le Wydad Casablanca s'est imposé face à l'Olympique Kourikba, 0-4. 20 supporters ont été arrêtés après des jets de pierre ayant endommagé 10 véhicules de police et 11 voitures particulières sans faire de blessés, selon la police. Ils ont été placés en garde à vue. En mars 2016, après la mort de deux supporters, les autorités avaient dissous les groupes de fans pour lutter contre le hooliganisme et interdit les slogans et banderoles dans les stades.
Le Classico espagnol aura bel et bien lieu.
Le match va avoir lieu, a déclaré Joseph Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, balayant l'appel à manifester de la plateforme séparatiste catalane. Le dirigeant catalan a souhaité que la sportivité l'emporte. Le Classico, la rencontre de clubs la plus regardée au monde, devait initialement se jouer le 26 octobre, mais a dû être repoussée en raison des manifestations qui ont secoué la Catalogne. Après la condamnation mi-octobre de 9 dirigeants séparatistes catalans, mardi, la plateforme séparatiste catalane Tsunami Démocratique a appelé à un rassemblement massif autour du Camp Nou le 18 décembre, juste avant la rencontre entre le Barça et le Real Madrid.
En NBA, Leonard a effectué son retour à Toronto.
Oui, la franchise canadienne a réservé un accueil chaleureux à son ancien joueur diffusant une vidéo rendant hommage à sa saison. Mais une fois le match commencé, Kawhi Leonard a défendu sa nouvelle couleur, celle des Clippers, inscrivant 23 points qui ont permis à la franchise californienne de l'emporter 92-112 face aux Raptors. De leur côté, les Rockets peuvent dire merci à James Harden qui, avec une soirée à 55 points, a permis à Houston de l'emporter face à Cleveland 110-116. LeBron James, en mode triple-double, 25 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, a porté les Lakers vainqueurs du Magic Orlando 87-96. Sans leur meilleur joueur Giannis Antetokounmpo, les Bucks de Milwaukee ont bien assuré face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, battus 127-112.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition, on passe au dossier du jour. Au Niger, au moins 71 soldats ont été tués hier dans l'attaque d'un camp de l'armée à Inates, dans l'ouest du pays. Des centaines d'assaillants ont mené un assaut de plusieurs heures contre le camp qui avait déjà subi en juillet dernier une attaque revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Comment expliquer ce bilan très lourd et toutes les pertes de l'armée nigérienne jusqu'ici? Idriss Fall a joint à Niamey Idi Anguma, ancien ministre de l'Intérieur du Niger.
La question fondamentale que tous les Nigériens se posent, comment cette attaque a pu faire autant de ravages? Quand on sait le dispositif qui a été mis en place au niveau du G5 Sahel, nous avons l'opération Barkhane, nous avons des drones, nous avons ce qu'on appelle les grandes écoutes, le dispositif d'écoute à grande distance, les drones qui peuvent y repérer tout ce qui est visible dans les moindres détails. Comment est-ce que cette colonne de plusieurs dizaines de motos, de plusieurs dizaines de véhicules ont pu traverser autant de distance, atteindre donc ce camp sans qu'il n'y ait la moindre alerte? Nous ne comprenons pas.
Les assaillants, ils ont pilonné d'abord le camp, ils auraient détruit d'abord tous les moyens de communication avant de lancer l'assaut.
Oui, mais tout cela ne peut pas s'expliquer. Ils l'ont fait, ils ont des moyens. Nous sommes en guerre depuis des années. Nous savons que la plupart du matériel, des armes qui ont été délogés en Libye, sont dans leurs mains. Donc nous connaissons de longue date leur capacité de nuisance, leur force de frappe. Nous savons tous les mercenaires qui sont venus d'Irak, de la Syrie, qui sont venus renforcer ces forces. Cette attaque meurtrière, mais elle doit nous amener à nous poser des questions.
D'autant que même quand Dinates a été attaqué en juillet dernier,
où il y a eu 18 morts, chaque épreuve doit permettre d'ajuster, malheureusement, nous constatons que malgré la présence des forces des partenaires qui sont sur le terrain, malgré l'encadrement, la menace est de plus en plus grande. Il est temps de nous arrêter, de nous poser des questions, en estimant que le sommet de Niamey, qui va regrouper les 5 responsables du G5 Sahel, va permettre de crever l'abcès et de se dire un certain nombre de vérités avant la rencontre avec le président français. Mais ce qui est sûr, ça ne peut pas continuer. Nous savons forcément aujourd'hui que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Il faut que nous ayons des armées aguerries, quel que soit le prix que ça va nous coûter.
Donc les prolongations d'état d'urgence, apparemment, ce n'est pas très efficace.
Disons que la population kabylie a payé un lourd tribut de Walam, Mangézé, etc. pour s'étendre jusqu'au Nouveau Dayourou. La région du Nord, qui fait frontière avec le Niger du côté du Tillabéri, eh bien, c'est un no man's land. Le gouvernement malien ne le maîtrise pas. Il y a une absence totale de l'administration. Et également, les populations sont contraintes à des complicités parce qu'elles sont menacées, elles sont isolées. Mais nous devons impérativement prendre des dispositions extrêmement urgentes, mais également efficaces, qui peuvent nous apporter une certaine efficacité. À ce rythme, nous allons démoraliser nos armées, nous allons démoraliser nos populations. Je pense qu'il faut une action urgente à ce qui nous arrive. Nous pleurons tous, les dirigeants, aux derniers des Nigériens. Tout le monde a été affecté par cette attaque. Et nous sommes de cœur avec la famille meurtrie et nous pensons que ce deuil-là, nous allons le porter pendant longtemps. Mais il faut que ça s'arrête.
C'était Idi Anguma, ancien ministre de l'Intérieur du Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les agents publics au Gabon sont en grève. Le mouvement dure depuis près de 2 semaines. La plateforme dénommée le bloc syndical de la première heure exige la satisfaction d'un cahier des charges en plusieurs points. Pour les autorités, les problèmes administratifs et de rappel de soldes sont tributaires du recensement biométrique des agents publics en cours dans le pays. On fait le point avec notre correspondant Ismaël Obiangnze.
Les services de la fonction publique à Libreville sont perturbés par un concert de vuvuzelas. Le bloc syndical de la première heure y a installé ses quartiers. Les grévistes exigent la fin de la période d'austérité décrétée par les autorités et un retour à la résolution des problèmes des fonctionnaires gabonais. Pierre Mitsa, porte-parole du bloc syndical de la première heure.
Pendant que nous faisons des sacrifices, nous apprenons à travers les médias et à travers les autorités elles-mêmes qu'il y a les gens qui détiennent dans leur maison les 85 milliards. Alors si on peut détenir dans sa maison 85 milliards, ça veut dire qu'on peut arrimer la pension retraite, on peut octroyer des produits budgétaires à ceux-là qui en ont besoin, on peut payer les rappels, on peut régulariser les situations administratives, on peut régler au moins les trois quarts des problèmes que nous vivons aujourd'hui dans l'administration publique.
Pour les grévistes, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en ouvrant un large dialogue social pour solder les vieux comptes.
Il s'agit des questions transversales. Si le Premier ministre est un homme responsable, il doit prendre sa responsabilité de faire convoquer dans l'urgence un dialogue social qui permettra de régler tous ces problèmes. En avril, il a convoqué la classe syndicale au Nomade pour dépenser plus de 150 millions. Vous comprenez? Et dire à cette rencontre qu'il va mettre en place un dialogue social. Depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu dialogue social dans l'administration publique? Aucun dialogue social. Cette grève prendra autant de temps possible.
Après plusieurs jours de protestation, le bloc syndical de la première heure a récemment été reçu par la ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, s'exprimant sur le bien fondé des revendications des agents de l'État.
Les sujets sont importants, les sujets sont pertinents. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de descendre dans des réponses précises. La seule chose que je souhaiterais vous dire, c'est que les décisions qui sont actuellement prises en matière, en ce qui concerne la fonction publique, sont exactement le contenu de vos préoccupations. Lorsque je prends les fonctions du ministre de la fonction publique, la première démarche qui a été la nôtre, c'était de définir qui étaient ces hommes et ces femmes derrière la masse salariale. C'est ce travail que nous sommes en train de faire avec le recensement biométrique dont vous savez que le déploiement à l'intérieur du pays est actuellement en cours.
Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la masse salariale du Gabon a baissé de 2,8% par rapport à la même période en 2018 pour s'établir à 322,3 milliards de francs CFA au premier trimestre de cette année. Libreville Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce 9 décembre. Selon Transparency International, la corruption fait perdre à l'Afrique le quart de son PIB, devenant le continent qui souffre le plus de ce fléau. Les mécanismes anticorruption sont-ils efficaces? Les populations jouent-elles leur rôle pour combattre le mal? Comment les institutions financières internationales peuvent-elles aider les gouvernements dans la traçabilité des fonds volés? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ici aux États-Unis, la commission judiciaire de la Chambre se prépare à approuver les articles de mise en accusation du président Donald Trump. Les démocrates majoritaires à la Chambre veulent le punir pour abus de pouvoir. Les républicains dénoncent le processus comme étant politiquement motivé. La suite de cette procédure avec Eric Manirakiza.
Les articles de mise en accusation sont toujours en discussion à la commission judiciaire de la Chambre. Les démocrates accusent le président d'abus de pouvoir et d'entrave à la marche du Congrès, Gerald Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Et lorsque le président exige qu'un gouvernement étranger enquête sur ses rivaux politiques, il corrompt nos élections. Pour les pères fondateurs de ce pays, ce type de corruption est particulièrement pernicieux. Des élections libres et équitables sont le socle de notre démocratie. Si nos élections sont corrompues, tout est corrompu.
Le républicain Doug Collins, numéro 2 de la même commission, soutient le contraire.
Le gros mensonge que nous entendons ici n'est pas que la fin justifie les moyens. Le mensonge de cette mise en accusation trompeuse est que la menace est réelle, urgente et imminente. Le gros mensonge, c'est que l'opportunisme politique est honorable. L'histoire a déjà montré que c'est faux et dangereux.
À la base, aussi le débat s'inscrit dans la même ligne partisane. Le démocrate Doug Demings, député de Floride.
Je sais que personne n'est au-dessus de la loi, mais la loi ne signifie rien si l'accusé, l'homme qui est entré chez vous par effraction ou le président peut détruire les preuves, empêcher les témoins de témoigner et refuser ouvertement de coopérer avec l'enquête. Je vous demande de citer quelqu'un dans votre famille ou dans votre communauté à même d'agir ainsi.
La réponse du républicain Jim Jordan, autre député de l'Ohio.
Il ne s'agit pas de l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'a pas subi de pression, que les Ukrainiens ne savaient même pas que l'aide a été gelée au moment de l'appel. Et surtout, ils n'ont rien fait pour que l'aide soit débloquée. Il s'agit d'un seul fait fondamental. Les démocrates n'ont jamais accepté la volonté du peuple américain.
Une fois que la commission judiciaire aura approuvé les articles de mise en accusation, la Chambre, dominée par les démocrates, passera au vote en plénière la semaine prochaine. Puis le dossier sera transmis au Sénat pour un procès. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine du Sénat, a fait savoir que ce sera le premier acte des sénateurs le mois prochain. Donald Trump a des chances d'être exonéré, car il faut la majorité de 2/3 des 100 sénateurs pour destituer le président, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sachez que les anciens de l'OUA, l'orchestre de l'université d'Abidjan, ont repris leurs instruments. Samedi dernier, ce groupe mythique de la scène musicale ivoirienne fêtait sa reformation au Parker Place. Une occasion de rappeler des bons souvenirs aux mélomanes et de faire danser les plus jeunes. Kofi Akessé était présent au concert. Son reportage est relaté ici par Lionel Gaïma.
Créé dans les années 70, l'orchestre de l'Université d'Abidjan a vu passer dans ses rangs plusieurs générations de musiciens, parmi lesquels des célébrités comme Paul Dodo, Ramsès de Kimon ou Tiburce Kofi. Enseignant, écrivain, guitariste des anciens OUA.
L'OUA avait une vocation, était d'animer les campus. C'est par nous que le premier album sort. Il s'appelle Zéa Zéa.
L'OUA reste ainsi, pour ses membres, une école de vie dont les enseignements marquent à jamais. Isaac Nezou, cadre à la Poste de Côte d'Ivoire, percussionniste.
L'Orchestre de l'Université et moi, c'est vraiment c'est un amour. La petite anecdote, ma femme, je l'ai connue à l'Orchestre de l'Université d'Abidjan. Quand j'étais derrière en train de jouer la percussion et la batterie, cette dame faisait les chœurs.
Docteur en communication et enseignant-chercheur à l'Université FHB de Cocody, Edmond Doua nous ramène là où tout a commencé. La salle de répétition du campus. Actuellement fermée pour réhabilitation, c'est ici qu'ont vu le jour certaines mélodies figurant parmi les plus célèbres de l'histoire de la musique ivoirienne, Numiwo ou Uprising. Cette ambiance folle du campus des décennies passées, les anciennes de l'OUA n'entendent pas la laisser s'éteindre. Dispersés dans des différents services et administrations ivoiriennes, ils ont décidé de ressusciter l'orchestre qui leur a permis d'allier études et épanouissement culturel. Un album baptisé Reminder, ou Souvenir. Edmond Doua, expert en communication, manager du groupe.
Reminder, qui est le titre de ce projet, est né. Reminder, acte 1. Puisqu'il aura l'acte 2, il y aura l'acte 3. Tant que Dieu nous donnera la force, on va continuer de se retrouver et de chanter, en fait. Et à partir de 2020, nous allons instituer ce qu'on appelait le Reminder Tour. Sillonner les grandes régions de Côte d'Ivoire, là où il y a les universités. Les anciens de l'OUA veulent apporter leur contribution pour apaiser le débat politique.
Le concert du 7 décembre dernier scelle définitivement le retour sur scène des anciens OUA, qui sera notamment marqué par une tournée sur les différents campus de Côte d'Ivoire. Ras Goody Brown, chanteur des anciens OUA.
Aujourd'hui, ça fait bien de refaire surface avec les anciens, ou à la fois redonner encore envie aux nouveaux étudiants qui sont musiciens de s'adonner à la musique ou bien de pratiquer le live.
Les réactions quasi hystériques du public ainsi que la communion bon enfant entre les musiciens et les mélomanes venus nombreux dans le non moins mythique Park Place ont confirmé tous les biens qu'on attendait de l'orchestre. Tantôt langoureusement, tantôt à un rythme endiablé, les anciens OUA ont réussi à tenir en haleine 3 heures durant, les plus jeunes comme les plus âgés. Firmin Jizou, spectateur.
J'écoutais à la maison les disques avec les grands frères, les oncles et tout ça. Et ça nous a bercés, nous tous. J'ai vu l'affiche, j'ai dit bon, je vais venir voir le concert, qu'est-ce que ça donne. est satisfait, quoi.
J'ai revécu vraiment les années d'étudiant. J'ai été transporté et tellement ému que j'ai eu les larmes aux yeux.
Transformé en champ de bataille par la politique, le retour de l'EUA ne pourra que redonner vie à l'ambiance et à la bonne humeur sur les campus universitaires de Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Joselle Morissin et Tony Pollock. À la présentation, Nathalie Barge. Restez avec nous pour la poursuite de l'info sur VOA Afrique avec Henri Francisque.
VOA Afrique, les infos.